DW. Le journal. Sandrine Blanchard.
Bonjour et bienvenue sur la DW. Nous sommes le mercredi 30 octobre 2019. Il est 17h en temps universel. Dans ce journal, nous allons nous demander qu'est-ce qui a changé au Burkina Faso 5 ans après la chute de Blaise Compaoré. Nous ferons le point avec notre correspondant à Ouagadougou. Les contestataires du Front National pour la Défense de la Constitution n'ont pas pu récupérer les corps des manifestants tués pour les inhumer. Des autopsies seraient toujours en cours en Guinée. Et puis, la justice ivoirienne ouvre un nouveau procès contre Charles Blé Goudé au lendemain de la confirmation de la condamnation à 20 ans de prison contre Laurent Gbagbo. Mais tout de suite et maintenant, c'est le Flash Info qui vous est présenté par Marco Voltaire.
Bonsoir à toutes et à tous et on commence ce soir par cette nouvelle découverte de migrants cachés dans un camion frigorifique. Cette fois, 12 personnes, des Syriens et un Soudanais, ont été retrouvés au milieu d'un chargement de fruits et légumes qui traversait la Belgique. Tous seraient néanmoins en bonne santé. C'est le chauffeur du camion qui a alerté la police. A priori, les migrants étaient montés dans le conteneur sans qu'ils le sachent. Les enquêteurs vont maintenant chercher à déterminer si ces personnes voulaient elles aussi rejoindre le Royaume-Uni. Cette nouvelle découverte intervient une semaine à peine après la découverte de 39 migrants morts dans un autre camion frigorifique retrouvé près de Londres et également en provenance de Belgique.
L'Allemagne annonce un nouveau plan pour combattre les violences racistes et antisémites dans le pays.
Et parmi les mesures, le gouvernement prévoit de nouvelles règles pour lutter contre les discours haineux sur Internet. Les opérateurs de réseaux sociaux, Facebook, Twitter, pourraient se voir obligés de signaler à la police certains contenus dangereux, comme les menaces de mort et les messages d'incitation à la haine. Ils devront, le cas échéant, communiquer les adresses IP qui identifient les ordinateurs utilisés. L'autre volet prévoit de mieux réguler les ventes d'armes avec des moyens étendus pour contrôler si une personne qui cherche à acheter une arme n'est pas connue comme étant proche de mouvements radicaux.
Et c'est une première en 8 ans de guerre.
Le gouvernement syrien et l'opposition sont assis à une même table pour élaborer une nouvelle constitution pour le pays. Les travaux parrainés par l'ONU ont débuté à Genève, en Suisse. Le comité est composé de quelques 150 représentants du gouvernement syrien, de l'opposition donc, mais aussi de la société civile. Il pourra proposer des amendements à l'actuelle constitution qui devront ensuite être votés. Il semble en revanche peu probable que le pouvoir syrien fasse des concessions à une opposition politique qui, elle, n'a cessé de s'affaiblir au fil des années de guerre. Une guerre qui a déjà fait plus de 370 000 morts.
Pour Recep Tayyip Erdogan, c'est une insulte à la Turquie.
Le président turc a en effet réagi tout à l'heure à la décision des États-Unis de reconnaître le génocide arménien. Du moins, la Chambre des représentants au Congrès a largement voté en faveur d'une reconnaissance de ce génocide. Lors de ce vote symbolique, les députés américains ont appelé à commémorer le génocide qui a été reconnu par une trentaine de pays à travers le monde et par la plupart des historiens. Plus d'un million d'Arméniens avaient été tués pendant la Première Guerre mondiale, mais la Turquie refuse depuis de reconnaître sa seule responsabilité et affirme que les massacres ont eu lieu des deux côtés.
Et pour finir, les campagnes de désinformation de la Russie sur Internet n'ont pas lieu seulement aux États-Unis ou en Europe, Marco.
Elles ont aussi lieu en Afrique. C'est Facebook qui annonce aujourd'hui avoir démantelé une vaste campagne de fake news dans plusieurs pays africains. Il s'agit de la Côte d'Ivoire, de la RDC, du Cameroun, Madagascar, le Mozambique, la Centrafrique, le Soudan et la Libye. Facebook a donc repéré des comptes, des pages et des groupes créés depuis la Russie par des entités associées à un proche de Vladimir Poutine. Il s'agit de la même personne qui avait mené la campagne anti-Hillary Clinton et pro-Trump lors de la campagne électorale américaine en 2016. Cette fois, les pages douteuses sur Facebook, mais aussi sur Instagram, ont touché directement près d'un demi-million de personnes en Afrique qui sont allées consulter ces contenus, des contenus qui faisaient notamment la part belle à la politique de Moscou sur le continent, tout en critiquant les ambitions de la France et des États-Unis en Afrique.
Et puis, pour terminer cette nouvelle qui nous arrive, le Chili ne pourra pas organiser la COP25, le prochain sommet de l'ONU sur le réchauffement climatique qui était prévu dans quelques semaines. Et ce, à cause de la crise sociale qui ébranle le pays. Le Costa Rica est en discussion et se propose éventuellement pour accueillir cette rencontre.
DW.
Souvenez-vous, c'était il y a 5 ans, jour pour jour, Blaise Compaoré, alors président du Burkina Faso, était forcé à la démission suite à une insurrection populaire. Le changement de régime a suscité de nombreux espoirs, mais aujourd'hui, la déception est inversement proportionnelle aux attentes d'alors. Des secteurs stratégiques tels que la santé sont durement touchés. Les syndicats dénoncent l'irresponsabilité des responsables politiques. Des précisions de notre correspondant à Ouagadougou, Richard Tinet.
L'insurrection n'aurait donc pas été la panacée tant souhaitée par les Burkinabés pour relever les grands défis de développement auxquels se trouve confronté le pays. La reconduction quasi tacite des grèves des agents de la santé publique affiliés au syndicat des travailleurs de la santé humaine et animale Sincha est une pilule difficile à avaler. Une grève qu'approuve tout de même le secrétaire général de la Confédération générale du travail du Burkina Faso, Bassol Mabazi.
Comment on peut aller couper le salaire d'une personne à plus de 80% et voulez-vous qu'il aille soigner qui, avec quoi? Mais voilà pourquoi nous disons que nous sommes gérés par des analphabètes. Parce que ceux qui gèrent le pays, au moindre rhume, prennent des appareils volants pour se retrouver à l'étranger, aller se soigner.
Et pourtant, cette grogne des acteurs du secteur de la santé a causé la mort de nombreux Burkinabés faute d'assistance médicale. Le régime Kabore n'est pas pour autant épargné des critiques non moins virulentes.
Secteur de l'éducation, ça ne va pas. Secteur de la santé, pire. Et n'en parlons pas le secteur de la sécurité. Et n'en parlons pas le secteur de l'économie. Demandez aux commerçants comment vont leurs affaires et ils vous le diront.
On assiste également à la recrudescence de la fronde sociale. La seule chose qui fait la force du Burkina Faso aujourd'hui, c'est la cohésion sociale.
Le Burkina tient sur pied du fait d'une relative cohésion sociale et a cependant mal à sa gouvernance de l'avis de Bassol Mabazi. Ces crises post-insurrection à répétition dans tous les secteurs d'activité seraient la résultante du non-respect de la parole donnée.
Parce que s'il y avait une vraie stabilité, ça permettra de choisir des hommes bien éduqués qui savent ce que veut dire la parole donnée, qui savent ce que veut dire le respect d'un engagement et de ce point de vue, on n'allait pas avoir des carcasses humaines au niveau de l'appareil d'État.
Partagés entre la satisfaction de leurs conditions de vie et de travail et le désir de voir le pays débarrassé des terroristes, les Burkinabés se mobilisent en multipliant les appels à l'unité nationale. Richard Tiené à Ouagadougou pour la Deutsche Welle.
En Guinée, le gouvernement a interdit la marche funéraire qui était prévue ce matin en mémoire de la dizaine de personnes tuées lors des dernières manifestations dans le pays. Les autorités guinéennes refusent toujours de rendre les corps aux familles car les autopsies ne seraient pas terminées. De son côté, l'opposition a annoncé son intention d'organiser une nouvelle manifestation. Elle aura lieu lundi prochain. Les précisions d'Alida Tapsoba.
Alors qu'elles avaient reçu l'autorisation du responsable de la MOG de venir récupérer aujourd'hui les dépouilles de leurs proches tués, au cours des manifestations, les familles des victimes ont été forcées par la police de rentrer chez elles sans emporter les corps. Mamadou Bella est docteur en médecine légale. Il s'est rendu à la morgue ce matin et raconte.
On a trouvé d'abord un dispositif de sécurité, empêchant les gens d'ailleurs d'accéder à la morgue. Il a fallu que moi je présente un badge pour que je puisse passer. La police était venue, mais disant qu'ils ont reçu un ordre interdisant le regroupement à la morgue. Je dis non, vous ne pouvez pas le faire. Il y a des familles qui sont là, il faut qu'ils les voient et leur corps au moins. Ils disent non, ça c'est interdit, il faudrait qu'ils quittent.
En effet, dans un communiqué datant d'hier, le gouvernement a annoncé que la restitution des corps ne pouvait se faire aujourd'hui. Il a avancé comme raison le fait que les autopsies n'étaient pas terminées. Sidia Touré, le président de l'Union des forces républicaines, déplore ce manque de respect pour les familles.
Je regrette que notre pays en soit arrivé à cela. Avant, même en pleine guerre, on s'arrêtait pour enterrer les morts. Et dans la culture africaine, il n'y a pas quelque chose qu'on respecte autant que cela. Je suis désolé que notre société soit devenue insensible à tout cela et que la politique l'emporte surtout. Je dis simplement aux parents que les enfants ne sont pas décédés pour rien.
Rappelant qu'il appartenait au procureur de la République de faire une telle demande, Sidia Touré s'interroge sur le bien fondé de la poursuite des autopsies.
Fait une autopsie normalement pour se faire suivre. Avec une demande en justice ou quelque chose de ce genre. Et nous savons que depuis l'arrivée de Alpha Condé, nous sommes à pratiquement 114, 115 mois. Il n'y a jamais eu d'enquête.
Les organisateurs de la marche funéraire estiment que celle-ci a été annulée pour éviter que ce rassemblement n'interfère avec celui organisé par les autorités pour le retour du président Alpha Condé de Russie. Le Front National pour la Défense de la Constitution a laissé entendre que la marche se tiendra malgré tout ce jeudi et prévoit de réclamer l'autorisation préparations pour une nouvelle manifestation lundi prochain.
Une grosse attaque dans le camp militaire de Blabrine au Niger, c'est dans la région de Diffa, dans le sud-est du pays. Des éléments de Boko Haram ont attaqué l'armée nigérienne la nuit dernière. 12 soldats auraient été tués et 5 autres blessés. Alors qu'au Tchad, notre correspondant nous signale aussi 2 enlèvements, peut-être par des éléments de Boko Haram. Le médecin-chef de district de Bagassola, dans la province du lac Tchad, le docteur Besso Ernest Mahamat, le responsable d'hygiène et d'assainissement et son chauffeur ont été enlevés par des inconnus. Le rapt s'est passé entre le village Chukutalia et Ngouboua, qui est une localité à la frontière du Nigeria. Le Nigeria, où la Cour suprême a confirmé la réélection de Muhammadu Buhari à la présidentielle de février. La justice nigériane a en effet rejeté l'appel du principal parti d'opposition, le Parti populaire démocratique, qui lui conteste les résultats depuis plus de 8 mois maintenant.
Vous écoutez la DW.
Ouverture du procès de Charles Blé Goudé, l'ancien ministre de la Jeunesse de Laurent Gbagbo, c'est en Côte d'Ivoire. Alors que la procédure n'est pas close devant la CPI, Charles Blé Goudé devra répondre devant la Cour d'appel d'Abidjan de crimes contre des populations civiles et crimes contre des prisonniers de guerre perpétrés durant la crise post-électorale de 2010-2011. Le point avec Julien Adaillé, notre correspondant à Abidjan.
Ils sont venus nombreux, tous de blancs vêtus, les militants du Congrès panafricain pour la justice et l'égalité des peuples et partisans de Charles Blé Goudé. Pour rappel, Charles Blé Goudé est poursuivi pour crimes contre des populations civiles et de crimes contre des prisonniers de guerre. Et pour ses chefs d'accusation, il encourt la prison à vie. L'audience qui s'est ouverte ici autour de 15h heure locale se tient à huis clos entre l'accusation, la partie civile et les avocats de la défense. Il faut noter que depuis le rapprochement entre l'ancien président Henri Konan Bédier du PDCI RDA et Charles Blé Goudé, les deux personnalités se parlent très régulièrement. Henri Konan Bédier a commis les avocats de son parti pour la défense de Charles Blé Goudé dans ce procès. Hier, la même justice ivoirienne a condamné l'ancien président ivoirien Laurent Gbagbo à 20 ans de prison pour la réquisition de la Banque centrale ouest-africaine lors de la crise post-électorale de 2010-2011. Toutes ces manœuvres judiciaires semblent barrer le retour politique de Laurent Gbagbo et de Charles Blé Goudé. Julien Daillé, Abidjan, pour la Deutsche Welle.
Et à peine ouvert, le procès de Charles Blé Goudé a été reporté d'une semaine à la demande de sa défense. Ses avocats ont constaté qu'une pièce importante manquait au dossier. On écoute tout de suite Blé Dohoura, l'avocat de Charles Blé Goudé, à sa sortie de l'audience.
Nous nous sommes rendus compte qu'à la vérité, c'est le dossier qui était en instruction ici depuis 2012. Blé Goudé a été transféré à la Haye en 2014. Depuis cette date, nous n'avons eu aucun acte d'instruction, nous n'avons eu pas de notification. Et c'est seulement cette année, à une semaine, que nous avons reçu des notifications. Donc il était bon pour nous de véritablement regarder ce qui se passe dans le dossier. Mais au-delà, c'est qu'il y a une pièce vraiment importante, essentielle, indispensable pour que nous puissions continuer ce procès-là qui n'existe pas dans le dossier. Donc nous avons demandé donc un renvoi pour demander à la Cour de nous mettre à disposition cette pièce. La Cour a donc instruit le parquet afin que la procédure puisse se poursuivre.
Ces deux procès en Côte d'Ivoire de Charles Blé Goudé et de Laurent Gbagbo ont fait beaucoup réagir nos abonnés sur les réseaux sociaux à cause de leur résonance politique, bien sûr. Rémi Mallet, bonsoir.
Bonsoir Sandrine Monchard.
Et vous avez donc regardé toutes ces réactions.
Belle justice à double vitesse, écrit Timothée de Namur en Belgique. On voit bien l'ironie. La violence post-électorale en Côte d'Ivoire a été l'œuvre aussi bien du camp de Gbagbo que de celui de Ouattara, estime-t-il. Mais, regrette notre auditeur congolais, jusque-là, il n'y a qu'un seul camp qui répond de ses actes. Des actes d'ailleurs qu'on peine à prouver. Une grosse farce renchérie de son côté Demba de Bamako au Mali qui qualifie la justice ivoirienne de justice des vainqueurs soumise aux ordres de l'exécutif. Cependant, Patrick Zé estime que la décision de justice dans l'affaire Gbagbo ainsi que le procès contre Charles Blé Goudé pourraient constituer un rempart contre l'impunité. On écoute notre auditeur depuis Kinshasa en RDC.
Nous pensons que la justice ivoirienne devra faire son travail et établir les responsabilités, car nous n'ignorons pas le rôle joué par ces deux responsables politiques dans les violences post-électorales de 2010-2011. Donc nous pensons que la justice devra faire son travail et qu'elle puisse établir les responsabilités. Et cela ne va pas offrir une prime à l'impunité.
Cela ne va pas offrir une prime à l'impunité, disait, vient de dire donc notre auditeur Patrick Zé à Kinshasa. Mais concernant la condamnation pour l'attaque de la banque, Bito Kalo invite également le gouvernement ivoirien à enquêter sur les auteurs de la casse de la BCAO en septembre 2003. C'était à Boaké, deuxième ville du pays. Une attaque dans laquelle des membres de l'ex-rébellion favorable au président Alassane Ouattara sont soupçonnés d'être impliqués. Finalement, le gouvernement ivoirien ne veut pas voir la justice triompher, mais la vengeance lance Mansour de Tawa au Niger pour conclure.
Merci Rémi Malet. Décidément, politique et justice ne font pas toujours bon ménage. En Algérie, c'était le quatrième jour de la grève des magistrats qui dénoncent une mainmise du pouvoir exécutif sur l'appareil judiciaire. Eh bien, le chef d'état-major de l'armée algérienne a décidé d'écarter toute libération de manifestants qui étaient détenus pour avoir porté des drapeaux berbères en invoquant justement l'indépendance de la justice. Pour rappel, des dizaines de manifestants ont été placés en détention préventive en Algérie depuis le mois de juin pour avoir contrevenu à cette interdiction édictée par le général Ahmed Gaïd Salah de porter tout autre drapeau que l'emblème national durant les manifestations.
Rendez-vous sur Facebook DW Afrique.
En République démocratique du Congo, Moïse Katumbi, le leader de la plateforme Ensemble pour le changement, poursuit sa tournée. Après Butembo, il était aujourd'hui à Bukavu lors d'une tournée, alors qu'au sein de la Lamuka, la plateforme politique de l'opposition dont il est le coordinateur, la tension monte. Les membres de la coalition sont partagés entre ceux qui continuent de soutenir Martin Fayoulou, qui soutiennent que Martin Fayoulou a été élu à l'élection présidentielle, et d'autres qui veulent jouer le rôle d'une opposition républicaine, c'est-à-dire coopérer avec le président Félix Tshisekedi. Sur le sujet, l'analyse de Michel Luntomboué, il est chargé de recherche au sein du groupe de recherche et d'information sur la paix et la sécurité, le GRIP, et il répond aux questions de Carole Assignon.
Je soulignerai le caractère électoral en fait, de la coalition comme la Lamuka. C'est à la fois une nouveauté et une tendance dans le jeu politique congolais depuis toujours, où on a une logique d'ancrage territorial et régional pour la plupart des formations. Et pour pouvoir avoir une influence au niveau national, passe des alliances.
Du coup, dans le cas de la Lamuka, est-ce qu'on est en train d'assister à la fin de cette coalition?
À mon avis, on assiste effectivement à la fin de cette coalition qui repose sur des formations avec une trop grande hétérogénéité parce qu'on retrouve Ensemble de Moïse Katumbi qui lui-même est un transfuge de l'ancienne majorité sortante. Le MLC, on a eu le MSR de Pierre Lumbi qui ne partage pas une convergence idéologique. Il s'agissait d'une approche plutôt électoraliste sans avoir une plateforme vraiment de gouvernement avec des programmes convergents ou en tout cas des affinités idéologiques. Dans l'entourage même de Moïse Katumbi, il avait annoncé lui-même qu'il allait mener une opposition républicaine.
Alors justement, Moïse Katumbi, il est actuellement en tournée nationale. Hein. Il était à Butembo hier, il a parlé de combattre l'insécurité. Aujourd'hui, il est à Bukavu. C'est une stratégie de reconquête finalement?
Absolument. Il est en train de faire un travail de reconquête, tandis que Martin Fayoulou, avec sa thématique de la vérité des urnes, est de plus en plus isolé. Et c'était vraiment contre toute attente qu'il avait émergé donc à Genève comme leader de l'opposition, sans un ancrage véritable dans les autres points du territoire.
Il y a un conflit également qui oppose le camp Fayoulou à celui de Moïse Katumbi, au sujet justement de la nomination du porte-parole de l'opposition.
Il y a une ambiguïté qui consiste à se considérer comme le président élu, tout en gardant une représentation, même ne fût-ce que symbolique, relève quand même de la contradiction. La coalition ne survivra pas au réalisme, au pragmatisme prôné par les autres, ses anciens alliés. Moïse Katumbi va jouer à souhait la carte de l'incarnation du pôle de l'opposition républicaine interne.
C'était Michel Luntomboué, chercheur au GRIP. Et on retrouve Rémi Mallet pour un point sur les réseaux sociaux. Toujours en RDC, les proches du président, de l'ex-président Joseph Kabila, visés par des sanctions de l'Union européenne, appellent à la levée de ces mesures restrictives. Alors comment nos abonnés ont-ils réagi?
Alors Sandrine, il faut d'abord, pour planter le décor, indiquer que ces personnalités, dont Emmanuel Chadari, ex-ministre de l'Intérieur et candidat à la présidentielle, ou encore Lambert Mende, ancien porte-parole du gouvernement, étaient accusés d'entrave au processus électoral sous la présidence de Joseph Kabila. Pour Isaac Alumoubashi, ces sanctions devraient être maintenues jusqu'à ce que la justice congolaise se saisisse de ces affaires. Sinon, prévient-il, l'impunité règnera définitivement en RDC. Jean aussi Alumoubashi est du même avis. À l'en croire, maintenir la sanction pourrait être bénéfique pour le président congolais, Félix Tshisekedi, qui pourrait maintenir aussi la pression sur des alliés majoritaires. Max Alomé au Togo estime pour sa part que ces sanctions sont insignifiantes, sans préciser quelles sanctions seraient plus appropriées. Trésor à Durban en Afrique du Sud propose que ces personnalités soient exclues des fonctions électives. Il estime par ailleurs que les démarches visant la levée des sanctions sont une machination opportuniste et essentiellement illégitime. On termine avec l'actif de Lomé au Togo. Il estime que si l'Union européenne était cohérente, elle aurait dû ordonner aussi le retrait des entreprises européennes travaillant RDC. De plus, pour conclure, écrit-il, il n'appartient pas aux pays européens de sanctionner ceux qui entravent l'organisation des élections dans un pays africain, d'autant plus que l'Union africaine ne sanctionne pas les partis d'extrême droite en Europe.
Et pas très très loin de la RDC, le Parlement angolais a suspendu l'une des filles de l'ex-président José Eduardo dos Santos. Elle était députée depuis plus de 10 ans. Welwichia dos Santos, qui est également surnommée Chizé, a été épinglée pour son absentéisme et enrichissement illégal.
Téléchargez notre application dw.com/appli.
Au Liban, il aura fallu 13 jours de révolte populaire pour que le Premier ministre Saad Hariri et son gouvernement annoncent leur démission. C'était hier. Le gouvernement de Saad Hariri n'aura tenu que 8 mois, alors qu'il était lui-même le fruit de négociations difficiles entre toutes les forces politiques du pays. Les manifestants ont accueilli la nouvelle de son départ par des vivas, des concerts de klaxons, des feux d'artifice et la levée des barrages routiers. Mais la crise sociale et politique est-elle pour autant réglée dans le pays? Pas sûr, nous dit Jean-Michel Boss.
C'est l'introduction d'une nouvelle taxe sur les messages WhatsApp qui a donc mis le feu aux poudres le 17 octobre devant la contestation. Des réformes ont été annoncées 4 jours plus tard, mais elles n'ont pas convaincu. 30 ans après la fin de la guerre civile, le mécontentement des Libanais est profond. Ils souffrent de coupures régulières d'eau et d'électricité. Plus d'un quart de la population vit sous le seuil de pauvreté et les citoyens dénoncent la corruption des élites politiques. D'ailleurs, les contestataires qui célèbrent le départ du gouvernement Hariri mettent en garde car la colère gronde toujours.
On nous a demandé de rouvrir les axes routiers après que l'une de nos revendications essentielles a été entendue. Alors on a levé les barrages pour 1, 2 ou 3 jours. Mais s'ils ne forment pas de gouvernement de technocrates, ce que nous réclamons, nous allons redescendre dans la rue, ne vous y méprenez pas. Ce qu'on a fait aujourd'hui, c'était seulement pour l'armée libanaise, pour lui rendre hommage et parce qu'on a besoin de nous reposer un peu.
On a décidé de quitter le pont pour le bord de la route et on sera toujours prêt à agir en fonction des décisions politiques à venir, en interne ou à travers la presse. Nous sommes prêts à nous remobiliser rapidement. Nous demandons à toute la population de nous soutenir. Nous ne voulons pas qu'ils nous abandonnent.
Un pacte national établi au Liban en 1943 entre chrétiens et musulmans et censé régir le partage du pouvoir entre les 18 communautés religieuses officiellement reconnu, le président est chrétien maronite, le premier ministre musulman sunnite et le président de l'Assemblée nationale musulman chiite. Mais ce consensus et sa révision de 1989 dans les accords de Taif sont grippés. Les chrétiens sont devenus minoritaires, les conflits de la sous-région et le soutien de l'Iran au Hezbollah chiite ont en effet bouleverser les équilibres. La constitution du nouveau gouvernement ne sera donc pas chose facile, d'autant que les manifestants donnent 48 heures au pouvoir pour former un nouveau cabinet issu cette fois de la société civile.
Et à l'instar de d'autres grandes puissances et de l'ONU, l'Allemagne craint un vide du pouvoir à Beyrouth qui pourrait entraîner des violences entre communautés. Le chef de la diplomatie allemande en visite en Égypte, Heiko Maas, dit suivre la situation de près. Il appelle au maintien de la stabilité pour le Liban et l'ensemble de la sous-région. On passe maintenant à la revue de la presse allemande. Les journaux se penchent aujourd'hui sur le cas de ces deux Syriens, membres des services secrets, accusés de crimes contre l'humanité en Allemagne où ils vivaient tous les deux. Avec cette mise en accusation annoncée hier, la justice allemande a ainsi ouvert la voie au premier procès au monde contre des responsables syriens pour des exactions commises sous le régime de Bachar al-Assad. La revue de la presse est signée Marco Volter.
C'est un signal fort, estime la Süddeutsche Zeitung, qui rappelle que si cette mise en accusation est inédite, c'est aussi parce que la justice allemande a réussi, là où beaucoup d'autres ont échoué. La justice internationale à La Hague a essayé, tout comme le Conseil des droits de l'homme de l'ONU, mais même Carla Del Ponte, l'ancienne procureure qui avait fait face au chef de guerre serbe Slobodan Milošević, n'y est pas parvenue. Elle a fini par capituler et jeter l'éponge, agacée devant les puissants alliés politiques d'Assad qui bloquent beaucoup aux Nations Unies. Et voilà donc qu'un tribunal de Karlsruhe franchit ce cap. Pour la S7, il ne faut pas exagérer avec le mot « historique », mais là, c'est historique. Le journal montre par ailleurs peu de compassion pour les deux Syriens, dont l'un était responsable d'une prison transformée en centre de torture à Damas. Les prisonniers étaient battus, torturés avec des électrochocs, accrochés par les poignets au plafond avant d'être violés. L'un des accusés se justifie en disant qu'il n'a fait que suivre les ordres, qu'il n'a fait que son travail. Personne qui viole les droits de l'homme ne peut s'en sortir aussi facilement, répond le journal. Un autre sujet à lire également ce mercredi les éditos qui sont consacrés au feu vert donné par le Parlement britannique à des élections législatives anticipées le 12 décembre prochain. Il était temps, s'exclame la Tageszeitung. Le gouvernement n'a pas de majorité dans un Parlement quasi incapable de prendre une décision et donc de voter sur l'accord de Brexit négocié par Boris Johnson avec l'Union européenne. Ce qui va sortir de ce scrutin, personne ne le sait, mais au lendemain de l'élection, la Grande-Bretagne pourra enfin démarrer un nouveau chapitre politique. Voilà qui n'est pas tout à fait l'avis de la Frankfurter Allgemeine Zeitung, qui voit l'avenir avec un peu moins de sérénité. Que faire si ces élections n'apportent pas les clarifications tant espérées, demande le quotidien. Le parti conservateur du Premier ministre domine largement les sondages, mais c'était pareil il y a 2 ans lorsque Theresa May se lança dans une recomposition de la Chambre basse, ce qui lui a valu ensuite, on s'en souvient, un échec cinglant.
Et quelques mots encore de Djibouti où des associations de défense des droits de l'homme dénoncent des actes de torture. Ils auraient été subis par le journaliste Ousmane Yoni Bogoré, ainsi que la poursuite de la détention arbitraire et la mise au secret de Saïd Abdillahi Yassine. Tous deux sont militants du mouvement pour le renouveau démocratique et le développement, le principal parti d'opposition à Djibouti. Ils sont également membres de la Ligue djiboutienne des droits humains.
DW, le sport, Ali Fahad.
Qui nous fait vibrer avec une soirée foot palpitante, la suite du deuxième tour de la Coupe d'Allemagne.
L'occasion pour le SC Verle, l'autre petit poussé à ce stade de la compétition, de continuer à rêver. Hier soir, les joueurs du pensionnaire de 4e division ont certainement regardé le match du FC Sarrebruck face à Cologne et nul doute qu'ils voudront également créer l'exploit ce soir face au Holstein Kiel qui évolue 2 niveaux au-dessus. Faire le contre Kiel, ce sera à partir de 17h30 en temps universel, tout comme Kaiserslautern contre Nuremberg, Werder Bremen face à Heidenheim ou encore Wolfsburg-Leipzig, le choc entre équipes du haut du tableau en Bundesliga. Autre affiche entre clubs de l'élite, celle entre le Borussia Dortmund et le Borussia Mönchengladbach, deux équipes qui se sont affrontées en championnat il y a quelques semaines, une rencontre que Dortmund avait remportée 1-0. Et cette fois-ci, Marco Rose, l'entraîneur de Gladbach, pense savoir comment s'y prendre pour mettre en échec Marco Reus et ses coéquipiers.
Wir wissen, was für eine Qualität offensiv Dortmund auf den Platz bringen kann.
Nous connaissons les qualités de Dortmund dans le secteur offensif. Le jeu rapide vers l'avant, les attaques en surnombre ou encore le jeu en profondeur, nous allons devoir nous montrer vigilants. De plus, pour gagner contre une équipe comme Dortmund, il faudra convertir des occasions en but. Dans l'idéal, la première ou la deuxième que l'on aura, pour ensuite avoir le contrôle du match. Dortmund-Gladbach, coup d'envoi prévu à 19h30 TU. Dans le même temps, l'Eintracht Francfort sera à Hambourg pour affronter le FC St. Pauli, tandis que le Fortuna Düsseldorf accueillera l'Erzgebirge Aue, sans oublier cette fameuse rencontre entre le Hertha Berlin et le Dynamo Dresde. 35 000 fans du Dynamo sont attendus dans la capitale allemande et rempliront près de la moitié du stade olympique. Malgré tout, Michael Pretz, le manager du Hertha, ne veut pas croire que cela sera un inconvénient pour son club. Nous sommes contents de jouer à domicile en Coupe d'Allemagne. De plus, ce sera une rencontre en soirée avec les projecteurs allumés. Et peu importe le nombre de supporters de Dresde qui feront le déplacement, les fans du Hertha seront plus bruyants, j'en suis sûr. Ils feront en sorte que ce soit un vrai match à la maison. Hertha Berlin contre Dynamo Dresde, début de la rencontre à 19h45 en temps universel.
17h30 TU, vous écoutez bien la DW, on retrouve Anne Le Touzé pour Vue d'Allemagne.